Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur la radio BAC FM 106.1. Je m'appelle Alexandra Blondeau et je suis élève en classe de première scientifique au lycée Raoul Follereau. Je suis en compagnie de Camille et Margot qui sont en classe de seconde, mais je vais laisser Margot vous expliquer la raison de notre présence dans les studios de BAC FM.
Bonjour, alors nous nous retrouvons ici pour une mission spéciale Fête de la Science, puisque c'est la 22e édition de cette manifestation qui a lieu dans toute la France, avec pour objectif de mettre la science à la portée de tous, petits et grands.
Effectivement, et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Sébastien Chevalier, qui est professeur des universités à l'Université de Bourgogne.
Monsieur Chevalier, bonjour.
Bonjour mesdemoiselles.
Selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la Fête de la Science ?
C'est avant tout d'expliquer notre métier, nos missions d'enseignants-chercheurs vis-à-vis du grand public, de démystifier un petit peu les travaux de recherche qu'on fait dans nos laboratoires de façon à les faire partager à la société et donc expliquer, comme on l'a fait ce matin dans une conférence, qu'on peut le faire régulièrement vis-à-vis du grand public. C'est d'expliquer notre métier et nos missions et en quoi finalement ce que l'on fait dans nos laboratoires peut intéresser, impacter la société.
Participez-vous à d'autres événements permettant de promouvoir les sciences ?
Alors régulièrement, oui. Donc c'est l'accueil d'autres étudiants ou lycéens dans le laboratoire dans lequel je suis. C'est auprès d'étudiants qui sont déjà à l'Université de Bourgogne et puis c'est auprès du grand public. Donc c'est des conférences. Je vais participer dans quelques temps à une conférence sur les matériaux du futur, donc auprès du grand public. Donc c'est vraiment, ça fait partie pour moi de mon métier.
D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce métier et en quoi il consiste ?
Alors, pourquoi j'ai choisi le métier ? Alors, l'enseignement, parce que je pense que j'ai la fibre de l'enseignement. Donc, ça m'intéressait dès tout petit, dès mon passage au lycée Raoul Follereau en tant que lycéen. La recherche, ben, c'est le côté curieux, le côté un peu savant fou, chercheur qui a dû m'interpeller. Après, quand j'avais votre âge, j'avais pas du tout conscience de ce qu'était le métier de chercheur. Et donc, c'est là où je trouve important de moi pouvoir vous l'expliquer maintenant pour que ça puisse révéler quelque chose pour les futurs scientifiques que vous êtes, que vous serez, ou peut-être que vous serez pas du tout. Ça dépendra de ce que vous avez envie de faire très bientôt.
Et justement, à quoi ressemble une journée type dans votre travail ?
Alors, je me lève à 11h. Non, je plaisante. Non. Généralement, on commence les cours vers 8h, 9h. Donc, mon activité, en fait, de professeur d'université, elle est répartie en deux thèmes principaux. Je suis enseignant. Donc, en tant qu'enseignant, je fais des cours comme ceux que vous avez au lycée, sauf que je les fais, moi, des étudiants qui sont soit en licence, soit en master, soit en école d'ingénieur. Donc, c'est la partie formation avec des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés. Et il y a une deuxième activité qui concerne le travail de recherche dans le laboratoire. Donc, je dirige une équipe de 10 personnes qui fait de la recherche autour de la réactivité de matériaux métalliques. Donc ça, c'est mon activité de chercheur. Donc l'activité de chercheur, c'est aller dans des congrès, faire des conférences, rédiger des articles, le tout en langue anglaise. C'est former des doctorants ou des stagiaires. Et puis, c'est animer un groupe de recherche de façon à ce qu'on puisse contribuer d'une façon ou d'une autre à faire avancer la science, à progresser, et puis à permettre à ce que les travaux que nous faisons dans les laboratoires puissent être utiles pour des entreprises, pour des industries. J'étais chez Airbus à Toulouse il y a 2 jours pour leur présenter des travaux récents sur une problématique de matériaux, et donc pour voir en quoi ça peut les intéresser et en quoi, eux, ça peut les obliger à modifier certaines propriétés de leurs matériaux pour l'avion.
Pouvez-vous nous décrire votre parcours après le bac et ce qui vous a motivé durant toutes vos études ?
Le parcours, c'est facile, la motivation, c'est plus difficile. Donc, je vais d'abord faire le parcours. Le parcours, donc, baccalauréat à Raoul Follereau, je vous l'ai dit. Ensuite, je vais en DEUG. À l'époque, il n'y avait pas le système LMD, mais bon, c'était l'équivalent DEUG à Dijon. Je suis un étudiant moyen, voire très moyen, puisque je redouble une année. Donc, je redouble un semestre, en fait. Je me redouble en janvier avec un DEUG en poche et 6 mois devant moi en attendant d'aller en licence. Je m'interroge de ce que je vais faire pendant ces 6 mois. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je fais rien. Pas très bonne tactique. Soit je trouve un petit boulot pour gagner un peu d'argent de poche. Ou alors j'ai eu l'envie de... et c'est là que je pense que j'avais déjà une volonté de faire des sciences. J'ai eu l'envie de faire un stage dans un laboratoire pour voir ce que c'était, pour me rapprocher du monde de la recherche. J'ai fait ce stage qui a duré 5 mois et j'ai trouvé ça absolument formidable. Et je pense que c'est là où j'ai trouvé un peu le métier que je voulais faire. C'est là que j'ai eu envie de faire de la recherche. Et donc, du coup, je suis allé en licence de chimie en septembre après. Et d'étudiant très moyen, je suis devenu un très bon étudiant parce que j'ai été majeur de promotion quasiment à chaque fois. Et ça m'a donné envie d'aller en master, de faire un doctorat et d'être le chercheur que je suis. Donc finalement, je dis souvent à mes étudiants, c'est une forme de réussite par l'échec. Échouer, ça peut arriver, mais finalement, si on est capable de rebondir ou d'avoir la chance de trouver un lieu de stage, de rencontrer quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui vous donne envie de faire quelque chose, après, ça change tout, parce que vous avez une forme de motivation, vous avez une carotte, finalement, qui vous guide et puis qui vous permet de trouver votre voie et puis de le faire avec aisance et avec plaisir après.
Très bien. Donc, maintenant, nous allons vous poser des questions par rapport à la conférence de tout à l'heure.
Mmh.
Quelles sont vos principales missions à l'Université de Bourgogne?
Donc, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, l'enseignement, la recherche, le transfert vis-à-vis des entreprises, et puis vis-à-vis de la société, et puis un certain nombre de charges un peu administratives qui sont moins marrantes à faire, mais que l'on subit tous les jours.
Vous nous avez parlé du projet Talent Campus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste?
Alors oui, c'est un projet qui est un peu à part dans la mesure où c'est il y a eu un appel à projet il y a 3 ans où on a demandé à des enseignants dans l'enseignement supérieur de penser à des innovations pédagogiques. Comment faire de la pédagogie quelque chose de nouveau et pas simplement un cours fait dans une salle, un tableau noir, des étudiants, des élèves, des chaises. Et donc moi j'ai pensé à l'époque, en fait je suis parti d'un constat qu'on vous forme très bien à tout ce que vous apprenez en ce moment à Raoul Follerot, mais ce que vous apprendrez à l'université après. Donc, dans les disciplines, dans la matière, on vous forme bien. Par contre, on vous prépare jamais à ce que vous devez mettre en avant pour dépasser ce que vous apprendrez au lycée. Je m'explique. L'exercice que vous faites là aujourd'hui d'interview, conditions de direct, un peu de stress et tout, jamais finalement, vous le faites de façon naturelle, mais jamais on vous apprend à gérer ce stress qui précède les 30 secondes avant le direct. Jamais on vous apprend véritablement à prendre la parole avec aisance en public. Jamais on vous apprend à gérer des émotions, parce qu'on a tous des émotions, mais le jour où vous avez un discours important à faire, si vous gérez pas vos émotions, c'est une catastrophe. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses qu'on vous apprend pas à l'école que moi j'essaye de vous apprendre dans Talent Campus. Donc on travaille sous la forme de stage pendant les vacances scolaires et puis on essaye justement de développer ce que moi j'ai appelé le talent, mais c'est le potentiel qu'en vous que vous avez pas forcément révélé. Donc c'est pour ça on viendra là les 4, 5, 6 novembre à Nevers à Raoul Follerot pour mener une opération pilote avec deux classes de terminale de Raoul Follerot et de Jules Renard.
Quel conseil pouvez-vous nous donner pour réduire notre consommation d'énergie?
Alors, je l'ai dit ce matin, il y a plusieurs solutions. Soit on décide de revenir aux 2 siècles avant. Donc, on élimine les écrans plats, les voitures, les téléphones portables, les climatisations et puis les systèmes de chauffage adéquats. Je vois que vous souriez, je pense qu'on n'est pas prêt, moi le premier, à revenir en arrière de cette façon. Donc ça veut dire effectivement par rapport à la problématique énergie, et on se rend bien compte qu'il faut qu'on réduise notre façon de consommer, mais enfin, en fait, il faut qu'on change nos habitudes. Donc changer les habitudes, c'est utiliser différemment l'énergie, c'est optimiser la façon d'utiliser, c'est couper l'éveil, c'est-à-dire éteindre véritablement les appareils quand on les utilise pas. C'est peut-être les utiliser à bon escient, c'est peut-être se poser la question est-ce qu'on a besoin d'avoir 4 écrans de télévision dans une maison ou dans un appartement. C'est utiliser aussi différemment les moyens de transport et de locomotion, le covoiturage, etc.
Très bien. Quels sont aujourd'hui les différents modes ou matériaux mis en place pour promouvoir une énergie renouvelable?
Alors, au-delà des matériaux, c'est déjà des techniques. Je l'ai dit ce matin pendant ma conférence, on part d'un constat en France où on a une quantité d'électricité produite par le nucléaire qui est importante. On a bien senti dans la loi qui a été votée cette semaine à l'Assemblée qu'on va diminuer cette part, mais on ne va pas l'éliminer. On a une part d'énergie qui est faite par du fossile. Donc, ce que j'appelle fossile, c'est du charbon, du gaz, du pétrole. Cette part-là, elle produit beaucoup de gaz à effet de serre, donc de CO2, et c'est nocif pour l'environnement et le réchauffement climatique. Donc ça, il faut réduire cette part-là. Et en parallèle, il faut augmenter les parts qui correspondent à des énergies dites renouvelables, comme tu viens de le dire. Et donc, c'est le solaire, donc le photovoltaïque, c'est l'éolien, c'est les énergies nouvelles comme l'hydrogène, c'est le stockage de l'énergie dans les batteries. Donc, en fait, il y a plein de matériaux Et là, j'espère que les scientifiques qui sommeillent en vous nous aideront, parce qu'on a plein de choses à découvrir et il faut avancer. On a plein de matériaux à imaginer, à découvrir, à optimiser, de façon à ce qu'on puisse diminuer la part du nucléaire, éliminer autant faire se peut la part de l'énergie fossile, et puis augmenter tout ce qui est lié au solaire et au vent, donc au système éolien.
Et quel est le style d'un bâtiment indépendant d'un point de vue énergétique ?
Alors, le style, je suis pas architecte, donc je vais pas répondre pleinement à tes questions. Il y a des bâtiments qui sont, on appelle ça avec des normes très très élevées vis-à-vis de l'environnement, donc ça veut dire qu'ils consomment peu d'énergie. On glisse petit à petit vers des bâtiments qui, maintenant, vont être capables de produire leur propre énergie, donc presque de s'autosuffire. Et ça, c'est un peu le rêve, c'est de se dire, moi, j'ai plus besoin d'avoir un réseau de chaleur qui vient de la ville de Nevers, j'ai pas besoin d'avoir finalement un réseau électrique qui arrive, mais je suis capable de générer ma propre électricité parce qu'il y a une éolienne à proximité, parce qu'il y a des panneaux photovoltaïques, parce qu'il y a des pompes à chaleur efficaces qui permettent de refroidir là où il le faut et de chauffer quand il le faut. Donc en fait, c'est un assemblage de technologies qui fait que le bâtiment, il sera efficace. Il y a bien sûr la démarche matériaux en termes de conception, comment j'oriente le bâtiment, comment les espaces vitrés, est-ce que je les mets face au soleil ou face nord. Il y a aussi la circulation d'air à l'intérieur, donc il y a plein de solutions. J'étais au Japon cet été, je vous l'ai dit ce matin, dans la maison type, la maison du futur que j'ai vue, ils récupèrent même de l'électricité dans les tuyaux, les canalisations. Ils ont mis des petits systèmes rotatifs qui permettent, quand l'eau passe, ils tournent, et en tournant, ça permet de générer de l'électricité. Donc c'est tout bête, mais on a tous des chaînons chez nous. On pourrait très bien imaginer mettre ça sur un chaîneau, donc qui évacue de l'eau de pluie, et donc en tournant, ça générait une petite quantité d'électricité, mais qui, couplée à plein d'autres petites quantités d'électricité, permettrait finalement de rendre la maison plus ou moins autonome. Donc ça, c'est des solutions d'avenir pour les matériaux et les maisons du futur.
Peut-on penser à un bâtiment futur ?
C'est un peu celui que je viens de décrire, alors celui qui est rêvé. Du coup, je vais aller un tout petit peu plus loin que ta maison. Le bâtiment, je pense que techniquement, on peut le penser. Faut envisager le coût, le surcoût que ça peut générer. C'est peut-être pas rien. Je sais pas si t'es prêt à payer 25% plus cher une maison. C'est déjà cher une maison. Mais pour qu'elle soit très écologique, il y a aussi le comportement de la personne qui va utiliser ou qui va habiter dans la maison. C'est ce que j'appelle le côté éducation du citoyen. Si tu as une maison qui est très bien conçue, mais si tu l'utilises mal, si finalement tu laisses les lumières allumées tout le temps, si tu laisses les fenêtres ouvertes alors que c'est l'hiver, si tu l'utilises mal, c'est-à-dire si tu n'as pas un comportement adapté à la maison, bah finalement elle sera jamais énergie positive. Donc c'est ce que j'ai voulu faire comprendre aussi, c'est que l'aspect matériau c'est quelque chose, mais l'aspect de l'éducation de la personne qui va utiliser le bâtiment, qui va vivre dedans, c'est super important. Et donc je pense que là, c'est une démarche sociologique. Moi, je suis scientifique, mais il faut qu'on s'associe à des gens qui étudient le comportement des gens et qui permettent, en fitant les deux, d'avoir le bâtiment idéal et qui produit l'énergie plutôt que qu'il en consomme.
Très bien. Donc aujourd'hui, on peut dire que beaucoup d'améliorations ont été faites pour préserver notre environnement, surtout d'un point de vue énergétique, comme nous le dit votre conférence. Mais est-ce que vous pensez que les recherches effectuées vont encore plus se développer et s'approfondir au niveau mondial ?
Alors, la problématique de l'énergie, c'est la problématique de ce siècle à l'échelle de la planète. Mmh. Pour plusieurs raisons. On a des ressources en énergie fossile qui diminuent. Il y a de moins en moins de pétrole, ou c'est de plus en plus compliqué pour aller le chercher. Il y a de moins en moins de charbon. Les prédictions en termes de stock sont à 50 ans, 60 ans. Après, il n'y en aura plus. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est les gaz à effet de serre. Il y a un réchauffement climatique qui est assez évident, qu'on perçoit. Hein. Vous avez, j'imagine, subi un été aussi mauvais que le mien. Et vous avez eu un mois de septembre et un mois d'octobre plutôt beau ici à Nevers comme à Dijon. Donc quelque chose qui va pas. Donc on perçoit bien tous les jours qu'il y a quelque chose au niveau du climat. Donc ces deux choses, plus la nécessité d'avoir une forme d'indépendance énergétique, nous oblige forcément à réfléchir notre consommation et notre production d'électricité différemment, d'où des moyens, d'où ce qu'on appelle un mix énergétique ou une transition énergétique. Et donc forcément, je le redis, des matériaux à développer pour qu'ils soient durables, qu'ils durent longtemps, qu'ils soient éco-participatifs, c'est-à-dire qu'ils n'impactent pas la planète, et puis qu'ils soient sécures, c'est-à-dire qu'ils soient sécurisés vis-à-vis de la production d'électricité et vis-à-vis des consommateurs que nous sommes.
Avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous pourriez donner à de jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences sans forcément avoir une idée précise d'un métier dans ce domaine ?
Qu'ils cultivent leur passion, c'est-à-dire qu'ils soient curieux de tout, qu'ils soient attentifs à ce qui se passe dans le monde, qu'ils ouvrent un journal de temps en temps pour voir qu'il y a des innovations tous les jours, et puis qu'ils ne se mettent pas la pression, ils ont le temps. Comme tu le dis, on se découvre pas chimiste en première, mais on va se découvrir chimiste peut-être en licence 3, parce que c'est là où tu vas choisir entre physique, chimie, maths, informatique, qu'ils franchissent le bac du cap de façon la plus à l'aise possible, en engrangeant plein de bagages, on va dire, scientifiques, techniques, et puis après, travailler, la passion, y prendre du plaisir, et ça va tout seul.
Nous vous remercions, Monsieur Chevalier, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follereau.
Merci.
Et
à vous.
Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur BAC FM 106.1.
Bonne continuation sur les ondes de BAC FM où nous nous retrouverons dans quelques minutes pour l'interview de Sandrine Goffinet, enseignante-chercheure à l'Université de Bourgogne.